sur le Pont des Arts. Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. Elle est poétesse, écrivaine, née il y a une quarantaine d'années dans l'oblast de Kharkiv, une région d'Ukraine qui, en 3 ans de guerre, a été la cible de plus de 20 000 frappes aériennes russes. Derrière la froideur des chiffres, il y a des histoires, une multitude d'histoires. Celles que notre invitée a choisi de raconter, ce sont des histoires de femmes. 40 courtes fictions, terribles et parfois drôles, sur ce que signifie vivre dans un pays en guerre, rester debout malgré les alertes, la perte des proches, l'absence de perspective. Mes femmes, c'est le titre de ce recueil. Et Yulia Ilyuha, son autrice, est avec nous sur le Pont des Arts. Bonjour Yulia Ilyuha.
Доброго дня.
Merci d'être avec nous sur RFI. Vous êtes accompagnée de votre traductrice Irina Dmitrichine. Bonjour à vous également. C'est un livre si fort qu'on a du mal à le lire d'une traite. Chaque histoire nous projette dans l'expérience intime de ces 3 années de guerre. Chacune nous dit avec peu de mots ce que cette guerre a détruit, abîmé. Il a déjà été couronné de plusieurs prix et on en parlera évidemment avec vous. Une autre guerre prend en ce moment la vie de milliers de civils. C'est celle qui sévit dans l'est de la RDC. Bonjour Emmanuel Kouzamba.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Vous êtes en ligne, vous, de Kinshasa. Vous nous parlerez de la mobilisation d'un collectif de graffeurs, une fresque en hommage aux populations de l'est. Et puis le Café Polar du jeudi. Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à tous.
Et un coup de cœur aujourd'hui pour un écrivain français, Marin Le Dun.
Oui, je vous parlerai tout à l'heure de cet auteur qui vient de publier un roman noir intitulé Enoua, qui nous emmène dans un des plus beaux endroits du monde, chanté par Jacques Brel.
Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Voilà les marquises pour décor de notre Café Polar.
RFI sur le Pont des Arts.
Yulia Ilyuha, celles que vous appelez vos femmes, ce sont des femmes croisées dans la réalité, ce sont des femmes aussi sorties de votre imagination.
Dans le livre Mes femmes, il y a différentes histoires. Il y a quelques histoires qui me concernent personnellement. Il y a des histoires de vie de mes copines, de mes connaissances. Il y a des histoires que j'ai lues un jour dans les infos, les premiers jours de guerre, que j'ai pensé et réécrit sous forme courte.
Les courts récits que vous écrivez sont marqués donc aussi par votre propre expérience, parce que lorsque la guerre a commencé, vous étiez chez vous, en Ukraine, dans un village proche de Kharkiv. Pourquoi ce choix de raconter la guerre du point de vue des femmes ?
Quand la guerre a commencé, je l'ai accueillie à Kharkiv, dans la ville même. Et comme beaucoup d'Ukrainiens, ce matin-là, je me suis réveillée à 5 heures du matin, au bruit des explosions derrière la fenêtre, mon mari aussi. Et lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a dit que la guerre a commencé. Après, nous avons mis du temps à attraper notre chatte qui a été effrayée par les explosions. J'ai ramassé nos affaires dans 2 sacs à dos, pour moi et pour mon fils. Et au milieu de mes affaires, il n'y avait que 2 paires de culottes. Et c'était tous mes vêtements. Nous avons quitté Kharkiv avec mon fils, avec ma chatte, et nous sommes allés dans le village de mes parents, dans un village des environs de Kharkiv. Et nous avons eu, à vrai dire, beaucoup de chance de parcourir ce chemin en vie, car nous avons croisé sur la route une colonne de chars russes qui allait vers Kharkiv. Et cette expérience mon expérience, celle de mes amis. Je l'ai écrit dans mon livre « Mes femmes », car ce n'était pas mon premier livre sur la guerre, car pour les Ukrainiens, la guerre a commencé il y a 11 ans. Et depuis 2014, je faisais du bénévolat en tant que personne civile, du volontariat, j'aidais l'armée ukrainienne. Avec mon ami, nous complétions des kits de secours pour les soldats. Et lorsque tes pensées sont entièrement occupées par la guerre, lorsque 24 heures sur 24, tu essayes d'aider l'armée, lorsque tu collectes, impactes, envoies, alors on ne peut pas écrire à autre chose que la guerre. Mais lorsque la Grande Guerre a commencé après l'invasion à grande échelle, je n'avais pas d'autres mots et pendant plusieurs mois, je n'arrivais pas à écrire. J'ai écrit quelques colonnes pour les médias étrangers, bien sûr, sur la guerre. Le livre « Mes femmes », c'est le livre que je n'avais jamais prévu d'écrire et que je n'aimais jamais écrire. Mais il se trouve qu'un soir, j'étais assise dans ma cuisine et la première histoire m'est venue sur la femme qui avait peur de prendre son bain car elle avait peur de se coucher sans culotte pour que si il y a une frappe, qu'on ne la retrouve pas nue car cela aurait été honteux pour elle même après sa mort.
Ce récit, c'est celui qui ouvre donc le recueil « Mes femmes ». Et c'est vrai que ça nous fait passer très intelligemment du sourire aux larmes. Hein. Cette femme surprise dans sa baignoire par une alerte aérienne craint non pas de mourir, mais de mourir nue, sans culotte, les cheveux mouillés, les jambes poilues. Elle pense à ce que diront les sauveteurs de sa cellulite, de son ventre mou. Ce sont ces pensées folles et décalées que l'on peut avoir quand on est surpris par la guerre.
Vous savez, lorsque j'ai publié cette histoire sur le Facebook, j'ai une mauvaise habitude de poster mes poèmes et ma prose courte sur Facebook. Le matin, j'ai compris que cette histoire a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions de la part des femmes ukrainiennes, notamment, qui ont reconnu dans cette femme anonyme elles-mêmes, car elles ont eu les mêmes peurs, non pas de mourir, mais qu'après la mort, on te trouve nu et qu'on voit ton intimité. Et beaucoup de femmes ukrainiennes, moi y compris, avaient cette peur car les Ukrainiens, à cause de cette guerre, sont devenus fatalistes dans une certaine mesure. Ils n'ont pas peur de mourir car vivre en Ukraine, quel que soit le lieu, est une loterie dans une certaine mesure, ou plutôt la roulette russe, car personne ne sait jamais quelle ville sera ciblée la prochaine fois.
Les femmes ukrainiennes se sont reconnues dans votre récit parce que prendre soin de son image, c'est une façon de résister. C'est d'ailleurs ce que vous racontez hein, avec cette femme qui, j'ouvre les guillemets, masque un trou noir dans son âme en mettant tous les jours du rouge sur ses lèvres. Toutes les nuances de rouge, une pour chaque jour, ça fait parler les commères, ça fait parler les voisines, mais c'est sa façon à elle de résister au deuil, finalement.
Oui. Le rouge à lèvres rouge est peut-être pour nous un moyen de résister comme cela a été le moyen de résister pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, c'est notre moyen de montrer que les Ukrainiens n'ont pas besoin de pitié. Ils ont besoin d'aide, mais pas de pitié.
Sous votre plume, ces femmes ukrainiennes, ce sont des résistantes, mais vous les montrez aussi terriblement humaines, avec leurs faiblesses, avec parfois parfois leur désespoir, comme celle qui cherche la paix dans l'alcool, qui boit pour oublier. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces fragilités, de ces failles qui sont tout simplement humaines en temps de guerre.
Dans le livre, il y a une galerie de toutes sortes de femmes. Il y a des femmes fortes, il y a des femmes faibles qui ont été brisées. Il y a des femmes qui, autrefois, dans leur vie, ont fait de mauvais choix et qui maintenant recueillent les fruits de ces choix. Donc, comme dans toute vie, pour chaque femme, les destins sont différents. Et j'essayais, même si c'est de la fiction, j'essayais de rendre ce livre crédible, qu'il n'y ait pas qu'un lecteur ukrainien qui croit, mais aussi le lecteur étranger.
Ce que vous donnez à voir aussi, c'est l'Ukraine des villages, hein, celle où les civils se sont sans doute sentis encore plus seuls le 24 février 2022, loin des chaînes de solidarité.
En Ukraine, il y a beaucoup de gens qui vivent dans les petites villes, dans les villages. Et souvent, peut-être, ils sentent une sorte de manque d'information, manque de soutien. Dès lors, mes héroïnes, ce ne sont pas que des résidentes des villes, mais aussi des petits villages. Et tout le monde était désemparé lorsque la Grande Guerre a commencé.
Et cette Ukraine rurale, c'est aussi celle où tout le monde se connaît, ou pour un drapeau à la fenêtre, un voisin peut vous dénoncer aux Russes. Cet aspect-là a peut-être été occulté, en tout cas ici, hein, l'image dominante, c'était celle d'une unité parfaite du peuple ukrainien. Mais ces divisions-là, ces tensions-là, elles existaient depuis le départ, Yulia Ilyuha.
Pas un secret que l'Ukraine orientale, dont je viens, et beaucoup de gens là-bas parlaient russe en conséquence de la politique de russification de l'Ukraine à l'époque soviétique, notamment. Et bien évidemment, il y a des gens là-bas qui soutiennent la Russie. Et qui auraient aimé que cette partie de l'Ukraine devienne la Russie.
Ladies, listen. I wanna be down, I've been up for a while. It look better on the gram when he sit in the crowd. This life is what you make it, ride that wave and don't drown. We wear jewelry while we make it, making songs with the sounds. Good morning while you're yawning, get it on and you know me. Shoot a other year, home video for fans only. Couple bands in my hands while we rolls rolling. Tell them hold it, leave my shit in the front. Then kick the dough in, have my swag. Steal my staff, I get last laugh. Text the group, bitches lit, I just snap back. Black tights, Jordan 3s, and a snapback. With a starter jacket before you bitches pass swag. If I'm coming how I'm coming, I don't half-ass. Cause R&B T, I'll leave your favorite in the trash bag. Live. The tone is what I said it. If you want it, come and get it. Don't forget it.
I wanna be down.
As I combine all the jewels from the mind, poetic, profound, and lyrically inclined, spiritually aligned, cause it's all by design. You can follow behind, but you can't cheat the grind. It's that rhythm and blues, paint emotional hues. They just misuse it with unethical views. It's for professional use. This only stemmed from the roots. I'm just enjoying the fruits, and I don't usually flex. I could if I wanted to, but I'm making exceptional. Filipina queen, my money green like vegetable. Who the first black woman to own a festival? Barbie without the plastic, a classic collectible. Young and respectable, shady, they skeptical. Yeah. Say a prayer, Breonna Taylor seemed intentional. Yeah. Black queens with dreams, beautiful, exceptional. Say you wanna be down, but still ain't the rest
I
them though.
Be down. My waist too small, my face
face too cute, my game too strong. Your man too close, he on my phone. About these bills, put mommy on the phone. He ain't never coming on. Look, I'm about to go in. I'ma get inside these bitches' head like a sewing. I'ma lace the track in the front, make it blend in. Pull that shit back so the glue ain't showing on the track. I'm hoeing, hose pipe flowing. About to build a little flower bed he can grow in. Got a mothership, we can head to the sewing. Bound the world streaming, baby, I'ma keep flowing. Bitch, I'm from the hooah, wish a wooah. Saw your in the club, looking good. I'm a boss and a worker. Keep a tight circle. Last name Bardu, first name Urkel.
Un titre qui remonte à 2020, les Hip Hop Awards, collaboration entre quatre artistes, quatre femmes, Brandy, Erykah Badu, Teyana Taylor et Her, qui a marqué l'influence croissante des femmes dans le Hip Hop. Mes Femmes, c'est un recueil de courts récits parus en France, aux éditions des Femmes, instantané de vie pendant trois années de guerre en Ukraine. Depuis ce 24 février 2022, Yulia Ilyoura, son autrice, est avec nous sur le Pont des Arts. Avant la pause, on parlait des divisions. Il y a justement une des femmes de votre recueil, Yulia, qui dit que sa famille est morte dans la guerre informationnelle, noyée, je cite, dans les vagues pourries de la propagande. Ses proches ont continué à vivoter quelque part en Russie, mais pour cette femme, ils étaient morts et enterrés. Yulia, c'est une histoire qui a été inspirée de votre propre expérience, de vos propres relations ?
Cette histoire n'est pas une expérience concrète de quelqu'un de concret. Beaucoup de femmes en Ukraine ont des expériences similaires, en particulier dans l'est de l'Ukraine, car beaucoup de gens de l'est de l'Ukraine ont des proches en Russie, puisque c'est une région frontalière. Et après la guerre à grande échelle, après le 24 février, beaucoup de ces femmes ont coupé les liens avec leurs proches en Russie, car ils ont été confrontés à une incompréhension totale de ce qui se passait en Ukraine lorsque les proches de Russie leur disaient, les appelaient pour dire « Attendez un peu, on va bientôt vous libérer, vous allez vivre comme nous ». Ce n'est pas une expérience concrète d'une femme, c'est l'expérience de plusieurs femmes, mais je voudrais également parler d'une autre histoire, d'une femme dont le fils combattait dans l'armée ukrainienne alors qu'elle soutenait la Russie. Et cette histoire, elle a été écrite d'après l'expérience de mon ami journaliste Alexandre Makhov, qui était originaire de Luhansk, qui a combattu dans les forces armées ukrainiennes, défendait l'Ukraine lorsque sa mère est restée à Luhansk, sur le territoire occupé, et soutenait la Russie. Elle l'appelait pour lui demander quand est-ce qu'il allait la tuer. Alexander Makhov, malheureusement, a été tué en mai 2022. Et je ne sais pas ce que doit ressentir sa mère. Est-ce qu'elle a compris qu'un jour, elle a commis une erreur dans sa vie?
Oui. Et chacune de vos femmes, Yulia, est emblématique de quelque chose, d'une réalité sur le terrain de cette guerre en Ukraine. Aucune ne porte de nom, hein. Vous ne situez précisément les récits ni géographiquement, ni dans le temps, sauf qu'on sait qu'on est après le 24 février 2022. Yulia Ilyoura, aujourd'hui l'occupation militaire se poursuit dans certaines régions d'Ukraine, hein. Et il y a, de la part notamment des États-Unis, une pression très forte pour que cette guerre se termine, que la situation soit en quelque sorte figée, que les Russes puissent éventuellement conserver les régions conquises, non seulement la Crimée annexée, mais aussi une partie du Donbass. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
У такі моменти я думаю про тих
dans ces moments, je pense aux gens qui sont restés sur le territoire occupé.
Тих людей, які через певні
je pense aux gens qui, pour telle ou telle raison familiale ou autre, ne peuvent pas partir sur le territoire de l'Ukraine libre. Et je me dis que nous ne pouvons pas abandonner ces gens parce qu'ils attendent la libération, tout comme l'attendaient les gens de Kherson qui a été occupé et ensuite libéré. Les habitants attendaient le retour de l'armée ukrainienne et comment ils se réjouissaient de cette libération, de pouvoir vivre de nouveau sans l'occupation. Dans ce contexte, il me semble que les paroles sur la fin de la guerre ne sont pas correctes, car ce ne serait pas la fin définitive de la guerre, ce ne serait qu'un gel qui donnera à la Russie la chance de mieux se préparer pour l'étape suivante de la guerre.
Yulia Ilyukha, je vous propose d'aller à présent en République démocratique du Congo. Là-bas, dans l'Est, la guerre dure à bas bruit depuis des décennies. Elle a repris début janvier. Elle a déjà fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de déplacés. Et face à cette situation, les artistes multiplient les initiatives. Emmanuel Kouzamba, vous êtes journaliste, responsable du desk culture au sein du média en ligne actualité.cd. Vous êtes aussi artiste slammeur. Vous êtes donc à Kinshasa, où des graffeurs se sont unis pour réaliser une fresque murale en soutien aux populations de l'Est, c'est ça ?
Oui, face à l'aggravation de la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC, les artistes graffeurs de Mwindo Tag Nation, qui est un collectif, ils ont érigé une fresque murale dans la commune de Limete à Kinshasa pour exprimer leur soutien aux populations affectées et aux forces armées de la RDC. Ils ont réalisé cette fresque du 6 au 8 février dernier, cette œuvre qui rend hommage aux victimes des conflits et met en avant la bravoure des militaires, notamment à travers le portrait du général Mamadou Ndala. Il a réussi en son temps de mettre hors d'état des nuire le M23. C'était en 2012, donc 2 ans avant sa mort. Les artistes ont accompagné leur dessin sur le mur dans la commune de Limete avec des slogans tels que « La patrie ou la mort », slogan cher à Thomas Sankara.
Emmanuel, vous nous avez parlé de ce collectif Mwindo Tag qui a mis 3 jours donc, pour réaliser cette grande fresque. Qui sont les artistes qui le composent et comment se sont-ils organisés ?
On peut citer Tata Nizo qui en est le chef de la troupe, Jonathan Bomba, Enouamata, Babi Bakombe, Mohamed Lissongo, Dorcas Poba, Priscille Panzou et Paulcine Makese. Ces mêmes artistes dénonçaient déjà en 2022 les multinationales autour de ce conflit. La fresque s'intitulait « Entre richesse et malheur » dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. Une autre fresque a été réalisée sur les murs du centre culturel Tongo Elamu, toujours dans la commune de Bandalungwa. C'était en 2024, l'année dernière. Ça s'appelle « Malédiction des richesses ». La fresque de cette année 2025 est la troisième du collectif sur le même sujet. Ces artistes disent que c'est leur apport à la construction de la paix, car leur devise, c'est tout simplement revendiquer, interpeller et conscientiser et embellir.
Et ils ont travaillé donc jour et nuit pour réaliser cette fresque et faire un résultat harmonieux pour ceux qui passent devant à Limete.
Oui, exactement. C'est un endroit très, très public à Limete parce que c'est la route qui mène vers l'aéroport. Pour tous ceux qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas du côté de l'aéroport, justement, la plupart des gens qui partent à l'aéroport, ils voient directement cette fresque-là et ça donne vraiment une bonne vue pour tout le monde, que ce soit les politiques, le public et tout le monde. Eh bien, là, l'un de leurs objectifs sera atteint, celui de conscientiser.
Emmanuel, cette initiative a dépassé les frontières de la RDC. Elle a gagné plusieurs pays d'Afrique, notamment le Sénégal, mais pas seulement.
Oui, au-delà des frontières congolaises, la solidarité artistique s'est manifestée à travers plusieurs fresques réalisées par des artistes en Afrique, notamment au Sénégal, Burkina Faso, au Bénin et au Kenya. Les groupes RBS Crew au Sénégal, Manos Guinan au Burkina Faso, Afi Kodjo et Da Vinci au Bénin, le Togo Street Arts et le Bank Salve au Kenya ont également réalisé des fresques murales autour de ce sujet sécuritaire de la RDC, tout en exploitant la thématique selon leur ressenti, selon que eux ils pensent cette guerre, d'où vous verrez des fresques au Burkina Faso, par exemple, où c'est écrit juste « Frégoma » ou « Stop War » pour dire « Stop à la guerre ». Au Kenya, un Congo est dessiné saignant du sang sur chaque lettre. Dans d'autres pays, des visages plus expressifs et des drapeaux de la RDC ont été privilégiés pour soutenir cette cause.
Il y a donc une solidarité continentale face à cette guerre. Et il faut rappeler peut-être que le graff, c'est une discipline traditionnellement militante.
Exactement. Les artistes de Mwindo Tag Nation se servent justement de cet outil militant capable de mobiliser et de redonner espoir aux populations meurtries. Le street art, par sa nature, comme on peut bien le savoir, est souvent associé à l'expression de messages politiques et sociaux, ce qui en fait un outil pour les militants et pour les artistes. Le street art, c'est aussi un moyen de contestation et de revendication, car dès ses origines, il a permis aux artistes de s'exprimer en dehors des circuits connus et traditionnels de l'art et de toucher un autre public qui va peut-être pas voir des expositions, qui se déplace pas pour aller voir l'art, mais l'art vient le trouver là où il se trouve.
Il y a donc cette fresque à l'imiter. Ici, on a entendu parler d'un collectif de rappeurs qui a sorti un morceau Free Congo, Youssoupha, Damso, Kalash Criminel. Des initiatives comme celle-là, Emmanuel, il y en a encore beaucoup?
Oui, ces artistes que vous venez de citer, Nathalie, ils sont bien connus, notamment en France. Donc, ils profitent de leurs origines congolaises et des l'audimat qu'ils ont pour passer des messages au niveau mondial, pour parler de ce sujet de la partie est de la RDC. Mais je vais dire, c'est pas officiel ou le plus efficace, mais c'est un front artistique qui semble se dessiner pour apporter une pierre à l'édifice, à la recherche de la paix dans l'est congolais. Il y a le côté culturel qui prend de l'ampleur ces derniers jours avec ces fresques, bien sûr, dont nous parlons, mais aussi des messages directs que différents artistes congolais envoient à travers les réseaux sociaux ou les médias. Youssoupha, Nino, Damso, Josman, Kalash Criminel, Dradur, pour les citer tous, ont mis en ligne une chanson écrite comme un cri de cœur, comme un témoignage des souffrances et des luttes du peuple congolais face à cette tragédie. Et le clip cumule déjà plus de 2 millions de vues en seulement 5 jours. Et voilà.
Et on va écouter ce titre, Free Congo, signé donc de ces célèbres rappeurs. Merci Emmanuel Kouzamba.
Merci Nathalie.
Des millions de morts au nord qui vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame, sans M23. Des millions de morts à l'est du Congo. Et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat, se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal. On n'a jamais demandé ça. J'aime pas le bon Dieu de me faire un signe. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. Si j'en parle trop, ils vous trompent des seins. Et nos mamans se font violer, ne rentreront peut-être pas à la maison.
Que mon pays va mal, que mon peuple est révolté. Que les diamants profitent à l'Occident, je suis débordé. Je peux pas faire grand chose, écoute nos cœurs qui se brisent. Je me demande d'où vient le problème d'un pays aussi riche. La faute à ceux qui voient leur poche avant la société. Mais c'est l'humain, 70% craque pour le gros papier. Je demande la paix dans le monde comme une miss. Même à Gaza, des mots meurent en masse. Un peu d'humanité, c'est la base. Tout n'est que vanité, tout s'efface.
Sors pas de dodo comme système à tanga. Soir, c'est la veillée. Des familles effrayées, j'ai le cœur endeuillé. Quand ce que mon pays peu à peu s'effeuille, faudrait qu'on se réveille. Sors pas de dodo, j'ai l'esprit à l'ouest. À cause de tout ce qui se passe à l'est du pays, les milices ne veulent pas lâcher du lest. Des millions de familles, des enfants y restent. Terre de richesse et de sang, sur ma terre de richesse et de sang. Les mines, les minerais, les mines, les minéraux, le même numéro des crimes ignorés, malgré le sang de nombreux innocents.
Message pour mon pays, c'est le millième. J'ai pas la couleur de peau d'Eminem. Alors les GT vont pas s'agiter quand on me massacre pour des minerais. Congo Mbokaba papa, Congo Mbokaba mama. Mais à Goma j'ai vu des barbares, des sapeurs ont des gilets pare-balles. Paul Kagame, faut le condamner. Mais aussi faut reconnaître ceux qui dirigent le Congo. N'aiment ni le Congo, ni les Congolais.
Des millions de morts, on argue vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra.
J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame, sans M22.
Ah, le Polda a tué plus que Hitler. C'était congolais donc ça compte pas. Takoma Nord qui fout sa bombarde. Free Congo tous les jours mon combat. Sans tuer le Mumba, ils nous ont rendu une dent. Chez nous y'a que des morts, des pleurs et du sang. On meurt pour des diamants, cobalt et coltan. À la moindre escarmouche comme le président. Ne jamais trahir le Congo qui vivra verra. Si Kagame n'est pas jugé, crois-moi que Dieu le fera.
Voilà, de grandes voix du rap mobilisées avec ce titre. Free Congo, mobilisation en solidarité avec les victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. Yulia Ilioura, cet engagement, on l'a vu au début de la guerre en Ukraine. C'était très fort, hein, même ici en France. On parlait tout à l'heure des graffeurs de Kinshasa. Eh bien, moi, j'ai en tête, par exemple, à Paris, la fresque de l'artiste Seth, représentant une petite fille, drapeau ukrainien en main, qui écrase de ses pieds, totalement insouciante, les chars russes. Cette mobilisation, elle a été importante pour ceux qui étaient pris dans cette guerre à ce moment-là. Et surtout, est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui ?
Bien évidemment, cette aide, cette mobilisation, ce soutien était très important pour l'Ukraine. C'est important pour les Ukrainiens de sentir qu'ils n'étaient pas les seuls à résister à l'agresseur, car l'agresseur est un très grand pays. Et sans l'aide d'autres pays, l'Ukraine n'aurait pas pu tenir et ne tiendra pas. Cette aide, naturellement, à la quatrième année de guerre aujourd'hui, les gens en Europe ressentent une certaine fatigue du fait que cette guerre continue. Et ça aussi, c'est naturel. Et on peut le comprendre. Et en même temps, nous voyons tous à quel point les événements sont imprévisibles. Et de fait, peut-être l'Europe et l'Ukraine vont rester seules dans cette confrontation avec la Russie. Et aujourd'hui, tout comme au début de la guerre à la grande échelle, nous aurons besoin de mobilisation, d'aide et d'interaction entre l'Europe et l'Ukraine. Aujourd'hui, je vois comme un des objectifs, pour revenir au livre, je vois comme un objectif principal de la culture ukrainienne, de la littérature en particulier, de raconter sur toutes les plateformes européennes cette guerre en Ukraine, de rappeler que la guerre en Ukraine continue et que nous avons besoin d'aide, non pas uniquement pour protéger l'Ukraine, mais aussi pour protéger l'ensemble de l'Europe.
Et c'est pour ça que votre recueil « Mes femmes » est publié aujourd'hui aux éditions des Femmes. Vous espérez qu'il apporte sa pierre à l'édifice du témoignage ?
J'aimerais beaucoup y croire et que mes femmes, par leur voix féminine, raconteraient cette guerre en Ukraine. C'est la raison pour laquelle mes femmes sont anonymes, pour que ces histoires soient plus universelles et que chaque lecteur, non seulement en Ukraine, mais aussi à l'étranger, en lisant ce livre, puisse s'imaginer à la place de ces femmes, car la menace de la guerre est réelle, non seulement en Ukraine, mais aussi, malheureusement, en Europe.
Alors, je laisserai aux lecteurs, évidemment, la joie de découvrir ces textes par eux-mêmes, mais je voudrais simplement terminer avec la lecture de la fin de l'introduction à ce recueil, sous votre plume, donc, Yulia Ilioura. Mes femmes, écrivez-vous, s'expriment de manière banale et terrifiante. Mes femmes partagent leur douleur et leur désespoir. Mes femmes croient et attendent. Mes femmes tiennent, même si elles ont du mal. Mes femmes connaissent la valeur de chaque jour. Mes femmes veulent que le monde entier les écoute et les entende. Mes femmes s'efforcent de continuer à vivre envers et contre tout. Mes femmes, dorénavant, elles sont aussi les vôtres.
D'accord. Merci.
C'est un très beau recueil, sensible et drôle. Et je ne peux évidemment que le recommander à ceux qui nous écoutent. Yulia Ilioura, merci infiniment d'être passée par les studios de Radio France Internationale.
Je vous
remercie beaucoup de votre invitation, pour cette possibilité de parler de ce livre qui en réalité est très important pour moi, bien que je n'ai jamais voulu l'écrire. Et je vous remercie de votre soutien pour l'Ukraine.
Merci également à Irina Dmitrychine pour la traduction de cet entretien. C'est vous aussi, Irina Dmitrychine, qui avez traduit ce recueil « Mes femmes » avec Agathe Bonin. Et le livre vient donc de paraître aux éditions des Femmes.
Entends-tu trembler la terre ? Vois-tu ces oiseaux noyés ? Les cris des chiens éborgnés hurler leurs sombres prières. Elles tournent de travers la terre où coulent les flaques de sang. Tourmente nos cœurs sans repère, bien souvent ceux d'innocents. N'y a-t-il vraiment plus rien à faire que de s'aimer et se défaire? N'y a-t-il vraiment plus rien à croire quand les loups prient le pouvoir dans ce matin obscur et blême? Puis-je encore
playlist RFI de ce mois-ci, Le lever du soleil, Gaby Hartmann et Naïssam Jalal. Sur le pont des arts, voici comme chaque semaine notre rendez-vous avec le Café Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Et alors qu'en France il fait froid, qu'on est en plein hiver, Catherine Fruchon-Toussaint, vous avez choisi de nous réchauffer avec la lecture d'un polar qui se déroule aux îles Marquises.
Mais oui, le soleil, l'eau transparente, le sable chaud. Vous sentez déjà, Nathalie, impression de bonheur, de plénitude, de vacances? Eh bien, ne vous trompez pas, parce que les Marquises, à la fois, c'est magnifique, mais ça n'empêche pas le mal de rôder. Et c'est ce que nous allons découvrir avec Marin Le Dain, écrivain de premier plan du roman noir en France, et qui, après le Nigeria, où il avait implanté sa précédente fiction, nous propose cette fois une intrigue en Polynésie française, soit 14 000 km environ de la métropole, autant dire une destination exceptionnelle où tout le monde n'a pas la chance d'aller. J'ai donc demandé à Marin Le Dain comment il avait découvert l'archipel des Marquises.
De manière assez étonnante et surprenante, j'ai été invité en 2016, fin 2016, au salon du livre de Nuku'hiva et au salon du livre de Wapo, qui sont donc deux îles qui se font face, qui sont espacées de 16 km au nord de l'archipel. Et j'ai accepté cette invitation.
C'était pour parler d'un de vos romans noirs, mais...
C'était pour parler d'un roman, à l'époque, qui venait d'être adapté au cinéma avec Isabelle Adjani, Les visages écrasés, donc rien à voir avec Les Marquises. J'ai été invité là-bas et je suis assez bavard. Et pour la première fois de ma vie, je crois que je me suis retrouvé sans voix. Et je suis reparti de là avec une seule idée en tête, c'est de revenir, de lire, de comprendre, d'apprendre le plus possible de cette culture, de ces cultures absolument fascinante.
Donc vous y êtes retourné ?
Donc j'y suis retourné 3, 4, 5 fois, enfin quand je peux.
Donc un véritable coup de foudre hein, pour Marin Le Dain, qui a donc décidé d'écrire un roman noir sur l'île de Nuku'iwa, en pleine immersion dans la société marquisienne.
Oui, à travers une fiction dont le point de départ est un terrible fait divers, l'assassinat d'une jeune femme, Payotoka, retrouvée morte dans des conditions suspectes. Et pour mener l'enquête, Marin Le Dain imagine un policier, Tepano Morel, qui vient de Papeete et dont la particularité est d'être métis. Il est né en métropole d'une mère marquisienne, mais il n'a jamais mis les pieds sur la terre natale de sa famille maternelle. Autant dire un étranger presque, ce à quoi tenait Marin Le Dain.
Comme presque toujours dans mes romans, j'ai un peu ce syndrome, je ressens ce syndrome un peu de l'imposteur, de « je suis un ignorant, je ne suis pas de là-bas, je m'intéresse, mais je suis un peu un ignorant, donc il me faut un point d'entrée ». Et Morel est un ignorant. Il est marquisien, alors moi je ne suis pas, mais vous non plus, mais il nous permet de rentrer un petit peu, de mettre un pied quand même dans la culture marquisienne, et en même temps, parce qu'il va chercher à travers ça l'identité de sa mère, sa propre identité, mais d'un autre côté, il est ignorant de la culture, il est ignorant de la langue, ça c'est quand même très important, de ne pas connaître sa propre langue, enfin en tout cas la langue de sa mère, qui ne lui a pas enseigné, et donc en fait c'est un point d'entrée, pour moi déjà, en écrivant le roman, et puis ensuite pour vous, quand vous le lisez.
Un enquêteur qui vient de métropole, donc. Est-ce que pour autant, il ressemble à son auteur, Catherine ?
Alors, pas vraiment, mais surtout, la vraie différence entre les deux, ce sont les tatouages. Par exemple, Marin Le Dain en a un très grand nombre sur le corps et qu'il s'est fait faire sur place pour certains, alors que son personnage, Tepano Morel, n'en a aucun sur la peau. Il faut dire aussi que cette tradition culturelle en Polynésie a pendant longtemps été interdite par les colons. C'est ce que nous raconte l'écrivain.
La France prend possession des marquises en 1842, avec l'amiral du Petit Thouars, pour en faire une zone de passage pour les baleiniers, pour avoir un point d'accès à de l'eau, des fruits frais pour les bateaux de commerce. Et assez rapidement, elle délaisse les marquises et elle prend possession, de manière un peu inespérée d'ailleurs, de Tahiti, qui à l'époque était aux mains des Anglais. Et la France laisse les marquises aux mains des missionnaires catholiques, de la congrégation de Picpus, et un évêque, en 1863, je crois, décide, parce qu'il a beaucoup de mal à les convertir, les marquisiens qui restent, parce qu'il y a malheureusement énormément de décès dans la population, du fait de la variole, du fait des maladies, du fait de l'alcool, etc. Comme il a vraiment du mal à convertir la population, qui finalement est assez libre et prie ses propres dieux, enfin, c'est une catastrophe pour eux, il décide d'interdire toute forme d'expression de la culture. Alors ça veut dire on ne se promène plus nu, on ne parle plus la langue, on apprend le français, un rôle de mission un peu à marche forcée, et donc ils interdisent le tatouage notamment, qui est vraiment une pratique complètement hérétique pour eux, parce qu'elle est une forme d'habit sur des corps nus qu'on ne doit pas montrer normalement. Donc c'est interdit. Alors l'interdiction réelle, elle dure pas longtemps, elle dure 2 ans. Mais en réalité, le tatouage va finalement disparaître et recommencer seulement dans les années 1970, c'est-à-dire un siècle plus tard.
Alors pour revenir au roman intitulé « Énois, Catherine », ce qui veut dire « Terre des hommes », c'est ça ?
Exactement.
Il s'agit d'une enquête pour élucider le meurtre d'une Polynésienne. Et visiblement, même dans ce décor de rêve, les mobiles ne manquent pas pour expliquer pourquoi on a voulu faire taire cette femme.
Hélas non, Payotoka a sans doute été témoin involontaire de pratiques illégales sur son île, soit de trafic de stupéfiants, soit de braconnage, en particulier d'espèces protégées. Parce que malheureusement, oui, cela existe aussi aux Marquises. Marin Le Dain.
Il y a un braconnage et en même temps aussi une conscience séculaire de la nécessité de protéger cet environnement dont ils sont extrêmement dépendants. Là, on parle d'un environnement très proche, hein, c'est-à-dire que quand on est marquisien, au XIIe siècle, on sait qu'on ne peut pas aller voir à 200 km de là s'il y aura quelque chose à manger. On sait que s'il n'y a plus rien sur l'île, il n'y a plus rien. Donc il y a tout un tas de traditions, enfin je ne vais pas en faire la liste, mais il y a tout un tas de traditions qui visent à protéger jusqu'au moment où la colonisation arrive. Et quand on interdit des expressions culturelles, quand on interdit une langue, quand on interdit des pratiques rituelles, voire religieuses, ont fait disparaître aussi tout ce qui était ce qu'ils appelaient le tapou, c'est-à-dire tout ce qui était des interdits et en fait qui visait à protéger un environnement en fonction de leurs propres pratiques culinaires, etc. Et donc l'écosystème est brisé à partir de la fin du XVIIIe siècle. Quand arrive la France, ça s'aggrave encore. Et ensuite, on se retrouve effectivement à braconner, à chasser sans trop se poser de questions, et puis avec les moyens modernes, quoi. Alors c'est en train de revenir, ça change, parce qu'évidemment, l'écologie, elle revient aussi, et la conscience écologique est quelque chose qui est venu rappeler tout ça, et qui est venu réveiller aussi un certain nombre de ces pratiques culturelles très fortes. Mais voilà, tout se mélange.
Alors visiblement, avec ce polar, Marin Le Dain fait aussi le portrait d'une société, Catherine, qui n'est pas épargnée par les dysfonctionnements.
En effet, au cours de l'enquête, il est question de violences sociales, intrafamiliales, d'abus de pouvoir. Et à travers le meurtre de Payo Toka, c'est tout un système qui est remis en question. Et l'assassinat de cette femme, finalement, devient presque une métaphore pour Marin Le Dain.
Payo Toka, c'est la personne qu'on retrouve morte au début. En fait, c'est le personnage principal du roman. C'est pas l'enquêteur, on s'en fiche de l'enquêteur.
Oh, pas tant que ça.
Oui, mais peu importe l'enquête, c'est elle qui symbolise à la fois son île, qui symbolise ses habitants, qui symbolise la liberté et qui symbolise surtout la puissance. Parce que c'est ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'elle a été tuée parce que c'était une femme puissante, parce qu'elle revendiquait une liberté qui est celle que revendique aussi son peuple en creux. Et c'est pour ça, finalement, qu'elle a été... Alors, je révèle rien de l'histoire, parce que c'est pas... Voilà, je dis pas qui a tué et qui a fait quoi, mais en creux, c'est ça. C'est cette question de la puissance perdue, de la puissance qui a existé, qui a failli disparaître, qui a été détruite et, par les contacts avec les Européens, par les maladies, par la colonisation, par l'alcool, par la marchandise aujourd'hui, mais qui revient. Il y a un petit dialogue comme ça dans le livre qui, pour moi, est vraiment le centre du livre. Je révèle rien de l'intrigue en disant ça. C'est ce moment où un jeune tatoueur qui s'appelle Hiku explique qu'il en a marre que son peuple passe pour une victime, pour ceux qui s'y intéressent, parce que la plupart d'entre nous ignorons totalement l'histoire des marquises. Mais donc il y a eu cette période absolument infiniment triste, désastreuse, catastrophique, où ce peuple physiquement a failli disparaître et sa culture a failli être totalement anéantie. Et lui, il dit oui, ok, ça fait partie de l'histoire, mais en fait ça, c'est l'histoire de la colonisation. L'histoire de mon peuple, c'est ce qu'on était avant et c'est ce qu'on va redevenir après, parce qu'on avance. Voilà, on ne va pas s'arrêter là et se traîner ça pendant des siècles et des siècles. On l'a vécu, on a failli y passer, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on avance. Et c'est ce qu'ils font.
La Polynésie française regarde vers son avenir, nous dit Marin Le Dain. Et avec son roman, Catherine, nous aussi, on regarde les marquises. On apprend à mieux connaître cette part de nous-mêmes. Parce que si géographiquement nous sommes éloignés les uns des autres, en tout cas l'écrivain fait tout pour nous rapprocher.
Oui, pour lui, c'est vraiment très important de nous donner envie de mieux connaître cette région du monde. Bon, à vrai dire, moi je suis déjà conquise. Hein. je suis prête à partir, il reste à trouver l'occasion d'y aller. Je vous emmène si vous voulez, Nathalie.
Allez, c'est parti.
En tout cas, il est à ce point impliqué qu'il a commencé d'apprendre la langue marquisienne, dont il nous dit ici quelques mots. Marin Le Dain.
Mea kanahao to'oe pohu e iya. La vie est belle.
Ah, c'est pas mal ça.
La vie est belle ces temps-ci.
Belle cette langue.
Et oui, et la vie est belle en effet ces temps-ci. C'est une magnifique conclusion de Marin Le Dain qui vient donc de publier Enoua, un roman publié à la Série Noire. Et pour tout savoir sur ce livre, à écouter le grand entretien que m'a accordé l'auteur et qui est disponible sur le podcast Café Polar.
Et demain dans Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint, vous recevrez Ivy Pochoda pour son roman Dios et Florida, paru chez Globe. C'est le road trip de deux anciennes détenues dans une Amérique violente, fiction féministe qui fait un peu penser à Thelma et Louise ou encore à Fight Club. Sur le Pont des Arts avec Pierre Plantier à la réalisation, Damien Roucou pour la programmation. Rendez-vous demain 15h10, temps universel. On sera avec le guajiro chic Raoul Paz et son dernier album dont il nous interprétera quelques titre en live. À suivre sur RFI, le journal en français facile. Et dans 10 minutes, Radio Foot International. À demain.